fort et reclus.
Bonjour à toutes et à tous, c'est jeudi, c'est Paravioli, c'est Forêt Reclus à l'Elysée, sur Radio 103, 102.3 FM, 95.9 sur Radio Plaisance et www.perilieu103.org sur Internet. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc du 1er mai qui s'est passé à Grenoble. Et parce qu'il y avait eu une action contre la vidéosurveillance et de la répression des anarcho-libertaires, comme ils disent, et comme l'année dernière. Et ensuite, nous allons parler aussi de la grève des chômeurs qui a commencé le lundi 3 mai et qui est toujours en cours. Mais tout de suite, nous écoutons un morceau qui s'appelle « Acédic ».
J'avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'ange. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Acédic, je t'écrirai de temps. Tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon nid, Acédic, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine Acédic. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie. Chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Acédic, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Sous la barre dans mon nid, Acédic, enfin ma place au soleil. Les gens qui n'ont pas
Fort et reclus sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance. Donc le 3 mai, il y avait un appel national à la grève des chômeurs, donc ça a été fait dans toute la France et ça continue encore. Et donc voilà.
Donc oui, à Paris, il y a eu l'occupation du siège de Pôle emploi. Donc il y a un reportage audio qui a été fait.
Qui vient de Fréquence Paris Pluriel.
Voilà, c'est ça, une radio parisienne. Donc on va écouter ça.
C'est le 3 mai, le début de la grève des chômeurs ici et dans plein d'autres villes en France. Donc voilà, on va bouger bientôt, tranquillement, c'est une petite journée qui commence. C'est un appel public, du coup il y a pas mal de journalistes. On s'est dit là, comme c'était un peu un moment de constitution, de début de la grève, d'essayer de constituer du collectif, d'essayer d'éviter les histoires individuelles, de parler moi-je au micro, de raconter nos histoires qui sont un peu les nôtres. Du coup, on préfère juste, s'il y aura des moments de déclaration de ça, ou des moments, mais d'éviter les prises de parole individuelles. Et surtout, de ne pas filmer les visages, parce qu'on a des entretiens d'embauche et qu'on ne veut pas faire prendre de risques. Et voilà, en tout cas, on va bouger bientôt. Et la grève des chômeurs a commencé dans 10 autres villes en France, et c'est le début de la semaine, quoi.
Pôle emploi, sûrement pas mal d'entre nous connaissent. Donc, c'est les radiations, les convocations, le suivi mensuel, l'offre raisonnable d'emploi. Et il y a quelques semaines, le ministre de l'Emploi, Laurent Wauquiez, a proposé, donc il y a eu la fusion Pôle emploi, qui a été assez compliquée, et du coup l'offre raisonnable d'emploi n'est pas tout à fait appliquée. Et là, donc le ministre de l'Emploi, Laurent Wauquiez, a dit qu'ils allaient expérimenter beaucoup plus sérieusement l'offre raisonnable d'emploi dans les services, dans les métiers sous tension, c'est-à-dire la restauration, le bâtiment, les services à la personne, les métiers un peu les plus difficiles. Et du coup, c'est les personnes qui n'ont pas vraiment le choix de trouver un emploi dans ces secteurs-là qui seront les premiers à subir l'offre raisonnable d'emploi, c'est-à-dire au bout de deux refus d'un emploi proposé par Pôle emploi, on est contraint d'accepter n'importe quel emploi à n'importe quelle distance de son domicile et pour ne pas être radié et donc ne pas perdre ses allocations. Et ça concerne beaucoup d'intérimaires, de gens qui font des CDD, qui passent par des périodes de chômage, voilà. Et par ailleurs, Sarkozy, pareil, il y a quelques semaines, a de nouveau mis à l'ordre du jour le fait de supprimer les allocations aux familles dont les enfants seraient accusés d'absentéisme. Et bon, on est entre autres aussi là pour dire qu'on est absolument contre ce chantage immonde aux allocations et que c'est pas du tout le monde qu'on veut. Et donc voilà, aujourd'hui, on va exprimer notre refus de toutes ces politiques de gestion, de contrôle et qui voudraient vraiment nous contraindre à accepter ce monde-là.
Oui, parce qu'il y a quand même un truc que les gens savent pas, vu qu'on nous fait des informations mensongères, c'est que la scolarité n'a jamais été obligatoire en France. Hein. Que jusqu'en décembre 98, ce qui était obligatoire, c'est d'apprendre à lire, écrire et compter, et que depuis décembre 98, ce qui est obligatoire, c'est d'acquérir un niveau équivalent aux enfants qui ont été à celui des élèves qui ont été scolarisés à l'âge de 16 ans. Sauf que clairement, la loi de décembre 98 est complètement, alors là, discriminatoire. Elle dit carrément que bon, si vous êtes riche, vous avez droit, mais que si vous êtes pauvre, voilà.
Ok, on y va par le métro.
Dans un lieu qui gère tous les précaires.
Grève des chômeurs ! Grève ! Grève ! Grève des chômeurs ! Grève !
Ouais, c'est ça, ouais.
Grève des chômeurs !
Grève ! Grève des chômeurs !
Grève ! Grève ! Grève ! Grève des chômeurs !
On est où ?
La direction nationale de Pôle emploi.
On sera plus haut, pourquoi ?
Oh, Nice emploi ! Ne passera pas par moi ! Oh, Nice emploi ! Ne passera pas par moi ! Oh, Nice emploi ! Ne passera pas par moi !
Il serait important de ne pas filmer la réunion.
Ouais. Voilà. Merci pour le champagne. Hein.
Ah là, derrière le champagne, c'est dur. Hein, quand même.
Non, c'est le dernier. Non, c'est bon,
ça. On va commencer la réunion. Peut-être c'est bien qu'on commence à se dire où on est et pourquoi on est là. Ici, c'est la direction nationale de Pôle emploi. Donc c'est pas un hasard si on est là. Vous savez que il y a peu de temps, les ACDIC et une fusion des ACDIC et de Pôle emploi. Et suite à cette fusion, les politiques de gestion des chômeurs et de la remise à l'emploi forcé s'est accentuée. Alors ce qui s'est accentué bien sûr, c'est les contrôles. On connaît l'offre raisonnable d'emploi. Donc l'offre raisonnable d'emploi, c'est au bout de deux propositions, si on les refuse, on se retrouve dans la situation d'être obligé d'accepter un emploi pourri, qui peut être très loin, très peu d'heures, très mal payé, sous peine de voir ses allocations radiées. L'autre chose importante, vous savez que donc il y a 1 million de chômeurs qui arrivent en fin de droit. Et parmi ces chômeurs, il y en a environ 300 000, 400 000 qui n'auront absolument aucune allocation. Il y a une allocation, en effet, qui a été créée, qui s'appelle l'allocation spécifique de CRI. Et à cette occasion-là, ça veut dire que cette allocation, si la personne refuse un contrat aidé, si la personne refuse une formation souvent complètement bidon, elle se verra couper son allocation. Donc on se retrouve dans une situation où on essaye de nous coincer de plus en plus pour nous renvoyer dans l'emploi, dans des emplois forcés, précaires, qui n'ont plus aucun sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a occupé ce lieu pour essayer de faire un appel d'abord à toutes les personnes qui se trouvent en situation de chômage, pour essayer de repousser toutes les exemptions à l'emploi permanentes qui passent notamment par les médias, et de commencer à s'organiser ici en Ile-de-France et partout dans l'Hexagone, que des collectifs se créent, que les chômeurs ne restent pas seuls. Et continue.
Je veux bien juste rajouter que c'est pas après, c'est Pôle emploi, et c'est aussi par exemple à la CAF, et qu'il y a beaucoup dans ces institutions-là, et depuis 1 ou 2 ans, des incitations en fait à faire valoir ses droits. En gros, on arrive au guichet et on nous dit non, non, vous n'y avez pas droit, non, non, il faut un titre de séjour, il faut battre le papier à la CAF par exemple. Et il n'y a même pas, on va dire, les minimums de droits qui sont là, qui sont respectés. Et du coup, souvent, quand on est tout seul, on se fait avoir. Même ça arrive à plein de gens qui sont un peu rodés et tout ça, de se faire complètement embrouiller par les agents. Et dès qu'on est 2, 3, voilà, qu'on vient avec des agents, ou qu'après on s'organise sinon au collectif, tout de suite, les choses se débloquent beaucoup plus rapidement. Et c'est aussi pour, je sais pas comment dire, aller contre la résignation un peu, de dire on peut rien faire, et de dire qu'on peut s'organiser et lutter contre tout ça. Enfin, il y a déjà un brouillon de déclaration qui a été fait, on pourrait le lire et voir si ça va à tout le monde, et voir ce qu'il y aurait à rajouter. Et après, peut-être de voir comment on s'organise là. Il y a des gens qui sont en bas qui nous préviennent si jamais il y a vraiment des très gros mouvements policiers. Pour l'instant, il n'y a qu'un quart de CRS et quelques flics qui préviendront si jamais ils sentent que c'est un peu plus nombreux. Après, il y a aussi des gens qui travaillent ici, qui sont dans des syndicats, enfin, au SNU. Du coup, peut-être ça pourrait être l'occasion de discuter, mais peut-être une fois qu'on aura discuté un peu plus généralement.
Oui, je voulais dire qu'en fait, on se trouve dans une situation où tout le monde est soumis à une sorte de... Alors, c'est pas du plein emploi, mais c'est une sorte de plein emploi précaire, où chacun est obligé de faire acte de soumission, alors qu'il n'y a plus d'emploi pour beaucoup de gens. Et en fait, c'est un contrôle de tous les instants de nos vies, et c'est contre ce contrôle qu'on se révolte, on veut reprendre possession de nos vies, lutter contre le contrôle biopolitique qui s'étend et qui tend à essayer d'infantiliser, culpabiliser, sanctionner absolument tout le monde, tous les gens qui veulent avoir un peu de maîtrise sur leur vie.
Bon, il faut savoir aujourd'hui que toutes les propositions de travail, même précaires, qu'ils proposent, c'est des contrats d'avenir. Les contrats d'avenir, aujourd'hui, ce n'est pas des travailleurs qui cherchent, c'est des esclaves soumis. Moi, j'ai fait un contrat d'avenir à l'hôpital Arivoisier, c'était un an prorogé et notre an. Si tu n'es pas content, tu prends la porte. En réalité, les trois quarts des choses qu'ils proposent aujourd'hui, la MP, c'est des contrats de merde, d'esclavage moderne. Il faut dénoncer tout ça parce que là, ça part en couille sec. Hein.
Peut-être on pourrait toucher un mot aussi de pourquoi on a envie d'inventer une grève des chômeurs. Raconter que, par exemple, si on a eu cette idée-là, c'est parce que, enfin, on fait le constat que, étant chômeur, RSA, travailleur précaire, on n'a pas un endroit, on n'a pas un lieu de travail où s'organiser. Le temps du chômage précaire, c'est pas un temps où on a la place de se rencontrer, de discuter entre gens qui subissent le même sort sur ce qui nous va pas, etc. Il y a une nécessité d'inventer une nouvelle forme d'organisation pour les gens qui n'ont pas de lieu de travail, qui n'ont pas d'usine où se retrouver, pouvoir enfin lutter contre ce qu'on subit et voilà.
Je m'appelle Catherine, je suis d'Assé, je voulais... Oui, deux contrats précaires qui ont lieu dans l'éducation nationale, notamment on a une camarade là qui n'ose pas en parler elle-même, mais elle avait un CAE dans l'éducation nationale, et là elle est en contrat universel d'insertion, et notamment son contrat arrive à échéance, et là, malgré cet emploi précaire qui la satisfaisait pas, elle est en rupture de contrat actuellement. Ce que ça donne, ce que donne aussi la précarité dans la fonction publique.
Oui, moi je voulais intervenir et dire qu'il y a plusieurs formes de précarité. Et là où on ne parle pas beaucoup, c'est le laboratoire du gouvernement qui sont les quartiers populaires dont je suis issu. Et il faut savoir que c'est pas question de mesurer, mais il y a une réalité. Et c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de porte-parole, on n'est pas beaucoup investi dans vos trucs, mais on est là quand même. Et je veux dire une chose, c'est que les conséquences, en fait, il faut savoir que les premières discriminations à l'embauche, on les subit. Et en ce moment, ce que la plupart, maintenant l'élargissement de la précarité, nous, ce qu'on subit, ça veut dire que quand on nous coupe le RSA, il faut savoir qu'on nous coupe le droit de survivre. Hein, quand nos enfants, par exemple, ils montent dans un bus. Quand je vois un jeune, premier délit, première incarcération, parce que ça, on n'en parle pas. Les prisons sont en train de s'élargir. Les chômeurs augmentent, mais les prisons sont en train de s'élargir. On est en train de voir des jeunes de quartiers populaires de plus en plus remplir les prisons pour premier délit, première incarcération. Quand on leur coupe les ACD, quand on leur donne même pas droit de quoi trouver un emploi, c'est-à-dire monter dans un bus, aller chercher de l'emploi, et quand ils sont harcelés sans cesse, qu'ils peuvent même pas aller chercher de l'emploi, ils se retrouvent menottés parce qu'ils n'ont pas 1,60€ dans la poche ou 1,40€ dans la poche, et qu'on leur donne et qu'ils finissent en prison, ça aussi il faut en parler. 62% de ceux qui sont en prison, ils sont issus de la précarité, dont le 3/3 sont issus des quartiers populaires. Et nous les quartiers populaires, voilà. Ça, il faut le dire. Et quand on est à l'intérieur des prisons, les prisons, ils servent au capitalisme. Parce qu'au lieu de démolir les prisons mur par mur, des gens commencent à enlever les délits de précarité. Et on n'aura pas besoin, avec notre argent, de construire d'autres prisons parce que c'est Bic qui prend les marchés. Et ça, il faut le dire. Il ne faut pas les oublier. Ils sont dedans, ils ont des murs, mais nous, on est dehors. Il faut parler pour eux. Et quand ils sont dedans, s'ils veulent avoir un mandat, quand ils n'ont pas de mandat, ils travaillent. Et ils travaillent à quel prix et pour qui ils travaillent? Ce sont des entreprises privées qui sont en train de licencier dehors et qui sont en train d'avoir des sous-traitances là-bas. Et ça, il faut le dénoncer. Il faut dénoncer à tous les niveaux. Et cela, il ne faut pas les oublier. Ils n'ont pas de micro. Ils ne peuvent pas venir occuper Pôle emploi, mais il ne faut pas les oublier. Et aujourd'hui, c'est pour eux que je parle.
Quand il s'agit de jeunes, quand il s'agit de leur construire des prisons, quand il s'agit de payer des bandes armées en uniforme pour les humilier de toute manière possible en public, là il y a des sous. Hein, quand il s'agit des activités intéressantes, là il n'y a plus de sous. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des contrats multipliés qui sont en fait des contrats gratuits, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de gens qui travaillent bénévolement, qui travaillent même jusqu'à des pleins temps bénévolement, parce que les associations n'ont pas de quoi les payer, hein, parce que les centres sociaux ils travaillent avec des stagiaires ou carrément des bénévoles, et que bon, il faut quand même parler aussi de cette multiplication, non seulement du STO, mais du STO gratuit, l'esclavage. Hein. Et moi je voulais aussi parler quand même d'autres choses, d'autres personnes dont on parle très peu, c'est les personnes handicapées, parce que vous avez pu voir depuis des années qu'en France, on fait plein de choses pour les personnes handicapées, on fait plein de choses pour qu'elles puissent avoir leur place en entreprise, pour que leur poste soit adapté. La réalité, c'est que donc avant, ils n'avaient pas d'autre choix que les CAT qui travaillent pour 3 francs en sous. Sauf que maintenant, les CAT, ça devient des armes. C'est-à-dire qu'en plus, on te raconte des soins alors qu'il n'y a pas de soins. Et ce qui se passe dans les des arts, c'est que voilà, on te promet que tu vas avoir un stage qui va durer je sais pas combien de temps. Seulement, avant ton stage, il faut que tu travailles un mois gratuitement. Et au bout d'un mois gratuitement, comme par hasard, on te dit bon bah, rentre chez toi et puis tu auras la réponse un jour peut-être. Voilà.
Un prison, contrairement à ce qu'on pense, c'est que les prisonniers sont obligés de travailler pour vivre parce qu'ils ont enfin, pour acheter des consoles comme des papiers de toilette ou dentifrice, etc. Ben, ils sont obligés de travailler. Et qu'en prison, ils travaillent pour 3 euros de l'heure, évidemment, sans aucune protection sociale. Et tous les grands groupes, en partant de Airbus, AEDS, etc. ou L'Oréal, ben, ils font sous-traiter du travail en prison. Et ça, il faut bien le noter. Et à 3 euros de l'heure, c'est pratiquement équivalent au travail en Chine.
Petite parenthèse, il faut savoir aussi que Pôle emploi, maintenant, envoie ses chômeurs pour l'aide à la recherche d'emploi. Ils sous-traitent en fait à des petits groupes privés. Moi, on m'a donné rendez-vous là-bas. J'y ai été, j'ai vraiment eu la sensation d'être accueilli comme un client par ces gens-là, qui sont effectivement une boîte privée qui est payée par Pôle emploi. Et qui donc nous aide à, soi-disant, nous aide à retrouver un travail. Évidemment, on m'a proposé un petit travail précaire de 15-20 heures par semaine qui, évidemment, me coupe mes allocations et en plus ne me permet pas de vivre, évidemment, puisqu'on est payé au SMIC horaire avec la prime de précarité et de fin de mission. Mais bon, ça reste assez faible. Faut le savoir, ils sous-traitent l'aide à la recherche d'emploi pour aider les chômeurs et les précaires, voilà, tout simplement.
L'action qu'on est en train de faire, c'est pas contre Pôle emploi, parce que eux, c'est des travailleurs comme nous, on parle pas. Alors, Pôle emploi, il a eu 15 tentatives de suicide aussi, parce qu'ils sont passés, quand il a eu la fusion des AMP et des problèmes de les ACDIC, ils sont passés d'avoir 60 personnes à 300 personnes, ça veut dire ils sont 10 minutes par personne. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire quoi que ce soit. Et il a des salariés qui sont avec nous.
Donc on reste tranquille, on s'énerve pas, genre c'est pas la panique. Il y a juste quelques flics derrière la porte et jusqu'alors ils sont pas encore rentrés. Donc on va essayer de se dire ensemble ce qu'on fait. Il y a une déclaration qui a été, disons, écrite par le collectif qui a préparé l'action. Ce serait bien qu'on puisse se la lire ensemble.
Isolé téléphoniquement, face au 3949, ou dans un box à la CAF, chacun pour soi, dans les queues des Pôle emploi. Divisé sur les lieux de travail. La grève des chômeurs, c'est refuser la concurrence de tous contre tous. C'est tout d'abord se rassembler et discuter, partout, s'organiser, reprendre un peu de liberté par l'action collective.
Nous ne voulons pas être licenciés au rabais, ni contraints à accepter n'importe quel travail par l'offre raisonnable d'emploi. Nous voulons l'argent sans contrepartie. La grève des chômeurs, c'est refuser d'être radiés, contrôlés, culpabilisés, et c'est exiger beaucoup.
Avoir l'air motivé, sourire à son patron, apprendre à se vendre, rester jeune et dynamique coûte que coûte, se faire remobiliser par des séances de coaching, faire du chiffre à tout prix, répondre aux objectifs statistiques. Nous ne voulons pas être managés à mort. Et d'ailleurs, qui voudrait l'être, ici comme ailleurs?
Déjà à Rennes, Brest, Tours, Lannion, Lorient, Quimper, Lille, Montpellier, Nice, Bruxelles, Nantes, Saint-Brieuc, la grève des chômeurs a commencé. Demain, d'autres actions auront lieu. Nous appelons tous les chômeurs, les précaires, les allocataires des minima sociaux, tous les enfermés, tous les handicapés, tous les gens du CAT, tous ceux dont on a parlé, nous appelons tous ces gens à gréver tous ensemble. Un chômeur et un entrepreneur sont dans un bateau, l'entrepreneur tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste?
La vie, c'est... les yeux faits pour nous, l'amour d'aimer, sans le refus d'un monde d'objets, sans rêver, sans réalité. Aux images, nous sommes tour d'avis, sans rêver, sans réalité. Aux images, nous sommes tour d'avis, les fusillés, les
de Pôle emploi.
Bon, l'important c'est de garder son calme. Donc l'important c'est d'être nombreux, déterminé et de garder son calme.
Moi je propose qu'on se rassoie. Et qu'on essaye de rester bien ensemble, groupés.
C'est juste d'être tranquille, on est beaucoup plus pour l'instant nombreux qu'eux. Après, à un moment, s'ils arrivent vraiment à nombreux, on sortira tous ensemble, mais on le décidera ensemble. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on a à leur dire, c'est qu'il y a trois personnes qui se sont fait arrêter et qu'on acceptera de discuter avec eux quand ils les auront libérés. Après, je sais pas comment ça se passe dehors, là on est tous là en fait, on est tous ensemble là.
Ouais.
Donc on est tranquille, là on est tous ensemble, les portes sont fermées, on reste devant les portes. Si jamais ils nous font un coup de Trafalgar à défoncer les portes, juste on se rassemble et on se serre les uns les autres, on se prend par le bras et on sortira tranquillement tous ensemble. On fait attention à tout le monde, y a pas, là c'est vraiment pour nous foutre des coups de pression, pour qu'on parle d'autre chose et pas de ce dont on a à parler. Et donc reprenons les choses tranquillement.
J'ai une question à poser là concrètement pour continuer dans ce
qu'on a affaire. Moi, j'ai l'habitude des perquisitions, des flics et tout, donc, mais ça stresse toujours. Mais quand on habite un quartier qui débarque à 100 au lieu de nous donner de l'emploi, on a l'habitude. La question que je pose, c'est que dans la déclaration, est-ce qu'on tient compte des 62% des prisonniers qui dépendent de la précarité? Voilà. Parce que moi, à 5h du matin, j'ai fait des ménages pour mon fils qui est en prison. Je veux pas me déplacer pour rien, quoi, entre guillemets, sans être égoïste. Et dire que si on, que de l'argent, il y en a, si on commence à libérer tous les prisonniers, que les prisonniers qui sont là, qui sont en prison pour de la précarité, ce sont des prisonniers politiques. Parce que si leurs droits, ils sont, s'ils avaient eu droit à un logement, s'ils avaient eu droit à aller à l'école, ça veut dire avec un ticket de bus, sans être joué à cache-cache, avec la police, avec les contrôleurs dans les bus.
Appuie.
Je ne sais pas où on appuie. S'ils avaient eu tous ces droits, ils ne seraient pas en prison. Ce sont des prisonniers de la politique. Ce sont des prisonniers politiques. On arrête de dire que ce sont des prisonniers du droit commun. S'ils avaient droit le matin à un petit déjeuner, s'ils avaient droit d'aller à l'école, ils ne seraient pas en prison. Voilà. Et il faut savoir que dans des quartiers populaires, 45% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. La discrimination rajoutée à la précarité. Et ce sont des familles entières, le père, la mère, l'enfant, ce sont des familles entières qui sont au RSA. Il y a 480 euros qui permettent de vivre 5 personnes dans une famille. Et ça, il faut le dire. Quand un enfant, il a 21 ans, on l'a fait à la CAF. Et ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, il faut le dire. Il faut penser à tout le monde. Il y a plusieurs formes de discrimination à l'embauche. Il y a plusieurs formes de précarité. Et il faut penser à toutes les précarités. Et ceux qui n'ont pas le micro aujourd'hui, ceux qui ne peuvent pas venir ici parce qu'ils ont trop la tête en dessous, il faut parler pour eux parce que demain, ils seront avec nous. Et aujourd'hui, on est 1 sur 100. Et demain, rendez-vous à 1000 sur 100.
Est-ce qu'il est raisonnable de se tenir ensemble jusqu'à l'expulsion? C'est pas la réexpulsion qu'on vit. C'est dont il faut un tout petit peu parler aussi, il faut qu'on soit calme, c'est pas non plus. C'est dont il faut parler un tout petit peu, c'est la suite qu'on se donne par rapport à ça. Aujourd'hui, on a fait quelque chose qui tient la route, quoi. On est nombreux, c'est très hétérogène, et ça, il faut le tenir par la suite, quoi. Donc là, on va tenir jusqu'à ce que les flics nous fassent sortir, et puis basta, c'est pas la première ni la dernière fois qu'on va se faire sortir par les flics, c'est tout. Et là, ce qu'il faut faire, c'est continuer à discuter tranquillement, ils vont nous foutre des coups de pression, on en a l'habitude, c'est pas grave. Bon, là, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, on a eu 50 coups de fil, les médias, ils sont un peu affolés, ils se demandent qu'est-ce que c'est ces trucs, on a eu 50 coups de fil, machin. Il y a, dans d'autres villes, il y a aussi des actions aujourd'hui, donc ça, c'est important de les savoir, on aura des nouvelles bientôt, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est le début d'un mouvement qu'on est en train de mettre en place, et que ce mouvement-là, il faut les structurer, il faut les donner forme. Structuré, je ne sais pas, il y a des réseaux très différents, moi je ne vais pas me poser, on est structurateur de rien du tout. Mais il faut lui donner forme, il faut lui donner de la consistance. Donc il y a des nouveaux rendez-vous qui vont être donnés, et là ça commence à avoir de la gueule, quoi. Un mouvement des chômeurs précaires, travailleurs précaires, des détenus, etc., qui se retrouvent ensemble pour monter quelque chose d'un peu consistant.
Moi je voudrais proposer quelque chose, et comme on est tous ensemble, et que, comme disait Joseph, on est très hétérogène, ça serait très bien de constituer une sorte de collectif de la région parisienne pour continuer à se voir et monter d'autres actions, donc essayer d'avoir au moins quelque chose comme un collectif qui soit constitué et qui nous permette de nous retrouver.
Dans 3 ans, si le RSA est aggravé, le SMIC risque de disparaître. Les ouvriers, les SMICards devraient nous soutenir. C'est là le problème. Les SMICards ne nous soutiennent pas. Ils viennent pas lutter avec nous, parce qu'ils vont perdre leur SMIC.
Et c'est pour ça que c'est pas une lutte uniquement catégorielle. Là, les chômeurs représentent, sont le symbole, sont l'expression vivante de la violence économique qui nous est faite, de la guerre qui est menée au peuple par ce gouvernement qui représente les gros intérêts. Il faut citer des noms: Arnaud Lagardère, Martin Bouygues, Pinot Valenciennes. C'est ça, c'est ces mecs-là qui nous mettent dans la merde. C'est eux qu'il faut aller attaquer. La jeunesse étudiante qui mange pas à sa faim, qui bouffe un sandwich par jour, les loyers qu'on n'arrive plus à payer, les transports dans lesquels on est maltraité, on est tabassé, les flashballs dans la gueule, les lascars qui se battent contre les bus. Voilà, c'est pas catégoriel. On va s'étendre parce qu'on va mener une rébellion contre la guerre qui est faite au peuple ici, et c'est pourquoi il faut rester tranquille ici sans se démener, sans flipper. On va sortir en groupe si nécessaire.
Je pense qu'il faut pas céder à la panique, même si derrière, dehors ils nous font des mouvements pour nous faire peur. S'il vous plaît, paniquez pas, parce que on va se faire latter la gueule, quoi.
Au niveau, comment dire, au moins notre journée, elle aura été complète au niveau de visibilité et d'annoncer la grève des chômeurs. Le point fort d'aujourd'hui, c'est d'annoncer la grève des chômeurs, mais en plus d'annoncer la grève, c'est pas annoncer la grève des chômeurs pour annoncer, c'est annoncer la détermination des chômeurs d'aller jusqu'au bout de notre combat. C'est ça qu'il faut leur dire. Ils peuvent venir nous intimider, nous mettre en garde à vue, nous mettre au cachot, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, ils nous ont tout pris, ils nous ont tout volé, on n'a rien à perdre.
Yeah.
pas passer pour rien.
On vient d'entendre Le Roi Poisson sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance et sur internet www.perilus103.org. Donc c'est toujours Forêt Reclus et nous allons lire un texte qui vient d'Immédiat Grenoble par rapport à ce qui s'est passé justement le 1er mai dans cette ville-là. À Grenoble, le 1er mai, on démonte les caméras.
Vous le saviez, la municipalité a installé entre janvier et mars 13 nouvelles caméras ultra sophistiquées dans les rues de Grenoble. Elle prévoit actuellement d'en implanter dans les quartiers de la Capuche, du village olympique et du jardin de ville. Pour accompagner ces mesures, Desto, le maire, et Safar, l'adjoint à la sécurité, augmentent le nombre de policiers municipaux et étendent leurs horaires jusqu'à 2h du matin. L'idée de les armer germe doucement. Face à cela, une campagne contre la vidéosurveillance et la gestion policière de nos vies a lieu depuis plusieurs mois à Grenoble.
Aujourd'hui, 1er mai, 10h du matin, place de la gare, il pleut. Peu sont venus pour manifester, peut-être 2 ou 3 000 personnes. Derrière le cortège de la CNT, une bonne centaine de personnes forment un cortège festif et coloré contre la vidéosurveillance. Masques, perruques, confettis, nez clown, instruments de percussion apportent un peu de couleur et de bonne humeur dans une manif qui s'annonçait bien tristounette. De grandes banderoles encadrent le cortège sur les côtés et à l'arrière. Démontons les caméras, reprenons la rue. La mairie se prend pour Big Brother, crevons-lui les yeux. Et plus de flics, de caméras, le parti sécuritaire devance Hortefeu. On peut aussi lire quelques pancartes comme « La police de proximité tire de plus près ».
La manif se met rapidement en route. Des clowns arpentent le bord de la manifestation en distribuant des tracts et le plan de la vidéosurveillance à Grenoble. Ils collent aussi quelques affiches. À l'arrière du cortège, une petite batucada chauffe l'ambiance.
C'est lorsque le cortège arrive à l'embranchement de Jean Jaurès et de Courbéria que commencent véritablement les festivités. À cet endroit se trouve une des nouvelles caméras installées par la mairie. Très rapidement, les banderoles forment un cercle de protection autour de la caméra. Le cortège se place au milieu des banderoles. Une échelle est alors posée contre le poteau qui tient la caméra. Une personne monte alors avec un marteau. Il lui suffit de quelques coups pour que le dôme vole en éclats et que la caméra qu'il contient se retrouve par terre. Applaudissements et hurra partout autour.
Le cortège se reforme rapidement et reprend sa marche. Les confettis volent, les slogans fusent. À Grenoble comme ailleurs, démontons les caméras. Police, caméra, on n'en veut pas. Des personnes avec ou sans masque, parfois même avec des enfants, rejoignent le cortège petit à petit.
Des personnes repèrent Dorothée Sélard, grande chef des flics de l'Isère, avec ses collègues. Ils suivent le cortège d'un peu trop près. Quelques oranges pourries qui les frôlent leur signifient de se tenir à distance.
Comme on apprend,
fait son long nez, ça gronde au dedans, ça crie énormément. Un moteur qui reste sur place ne s'en va pas. Qu'est-ce que ça fait là, ça empoisonne tout l'espace. C'est une coulure acide, stagnante, qui enterre vos actions, paralyse nos membres, neutralise même les flocons de décembre. Dans quel état ce train-là va nous laisser? Ce train d'enfermement,
se dirige ensuite vers le croisement Auguste Samba-Lidiger, là où trône aussi une des nouvelles caméras. Un flic en moto stationne juste au-dessous de la caméra. Qu'à cela tienne, le cortège s'avance et les banderoles entourent la caméra. Le flic recule et ne peut intervenir. Même technique que pour la première fois, échelle, marteau, boum 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 et de deux. Le cortège reprend rapidement sa route sous les applaudissements des passants et des manifestants des cortèges voisins.
Le cortège reprend sa route en direction de la préfecture. Peu avant la place de Verdun, des fumigènes sont allumés à l'arrière du cortège. Les déguisements tombent. Les banderoles sont abandonnées et en quelques secondes, le cortège a disparu. De leur côté, les flics s'empressent de ramasser tout ce qu'ils peuvent. Déguisements, caddies, banderoles. À défaut de pouvoir arrêter des gens, tous les indices sont bons à prendre pour essayer de savoir qui sont les démonteurs et démonteuses de caméras.
Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont montré leur refus de la vidéosurveillance et de toutes les mesures liberticides que met en place la mairie de Grenoble. Sur les 13 caméras que la mairie a installées, 2 sont déjà hors d'usage. Il en reste 11. Avis aux démonteurs et démonteuses amoureux de la liberté.
Alors ça, c'est donc le compte-rendu du 1er mai donc, qui est vu sur Indie Media Grenoble. Mais il y a eu des suites à cette journée-là.
Oui, effectivement. Donc on a vu que le cortège il s'est organisé pour éviter les arrestations, etc. Mais il y a quand même eu en fait des arrestations et des violences policières, comme il y avait eu d'ailleurs l'année dernière à Grenoble. L'année dernière, il y a eu deux manifestants qui se sont retrouvés arrêtés, enfin d'abord matraqués, arrêtés, et qui sont passés en procès. Un procès qui a eu lieu depuis et ils ont finalement été relaxés, mais...
Mais il y a eu la même chose déjà l'année dernière.
Donc voilà, oui. Oui.
D'accord.
Donc pour cette année, donc les flics ont été apparemment très déçus de ne pas pouvoir
choper
personne sur cette action anti-vidéosurveillance. Donc à l'arrivée du cortège, au moment où il y a les stands, le cortège qui se disperse, mais où il y a encore des gens qui restent pour discuter, etc. Donc il y a eu une personne qui a été ciblée. Donc comme par hasard, c'est encore une personne de la CNT.
C'est pas possible, ça n'arrête pas.
Donc il y a eu une quinzaine de personnes qui se sont interposées. Donc c'est des flics en civil sans brassard qui sont intervenus.
Ils s'étaient pas reconnaissables en plus, Tom. Ils étaient... de la maison poulaille.
Donc, il y a eu des matraquages, il y a eu une personne qui a fini aux urgences à l'hôpital. Et donc, il y a une personne qui est convoquée pour dégradation de biens publics le 19 mai prochain. Donc, il y a un appel à aller la soutenir, quoi.
Oui, surtout qu'ils n'ont pas de preuves, en fin de compte.
Ben... ce qui est sûr, c'est que cette personne-là, elle a participé au cortège, elle a défilé à visage découvert, etc. C'est pas une des personnes qui a participé à l'action de anti-vidéosurveillance. Donc la seule preuve, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir, c'est un communiqué de l'AFP.
Donc,
qui parle de cette action au sein de la mouvance anarcho-libertaire. Et qui parle d'une jeune femme arrêtée à la fin de la manifestation par les policiers alors qu'elle venait de casser une caméra de vidéosurveillance en se hissant sur une échelle. Donc c'est totalement faux, c'est la version policière quoi qui est...
Ouais, qui a voilà, repris donc par l'agence de presse, d'accord. Donc la police parle à travers les médias, n'est-ce pas? Donc voilà, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Donc à dans 15 jours sur Radio 103. Et là nous allons écouter Anne Sylvestre, un peu de Clémence.
On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin. Le voisin à la bouchère à son gamin. Son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence est comme en enfance. Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence est comme en enfance. Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil. Un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence est comme en enfance. Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison. La cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence est comme en enfance. Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort, n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient